Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans À quoi qu'on joue. C'est notre retour après la trêve estivale. Votre rendez-vous mensuel sur le jeu, sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Comme à l'accoutumée, je suis Daoud, je m'occupe du conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme chaque mois, je reçois des invités qui viennent nous parler de leur actualité ou de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Jérôme et Anthony qui viennent nous parler de leur association Ghostbuster Project 58. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bah, très bien ma foi.
Eh bien, bienvenue dans À quoi qu'on joue. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bah, merci de nous avoir invités.
Alors, avant qu'on commence et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos invités ? Jérôme.
Alors, bah, moi c'est Jérôme, alias Gège pour l'association, c'est mon petit surnom. Moi je suis surtout passionné de jeux de rôle, pour être précis.
Eh bien moi c'est Anthony, aka Luke, dans le groupe Ghostbuster Project 58. 40 ans et surtout passionné de fabrication de props. Je fais beaucoup d'impression 3D,
d'accord.
Pas mal de props, on fait notre propre électronique. Et on
alors,
fait,
tu viens d'utiliser un mot que je connais pas, des props.
Des props, on va dire des petits objets qui apparaissent dans les films ou des petits goodies. C'est comme d'accord. Du goodies, du. Voilà, pour Ghostbuster, principalement le Proton Pack.
Ouais, ok, très bien. Vous savez, notre émission s'appelle À quoi qu'on joue. J'ai une petite habitude, je demande toujours à mes invités à quoi ils jouent. Alors, toi, Anthony, tu joues à quoi ?
Alors, moi, par contre, je joue surtout aux jeux vidéo.
D'accord.
Moi, je suis collectionneur, donc je collectionne. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans.
Ouais.
J'ai actuellement 72 consoles et j'ai passé les 1000 objets. Enfin, le 1000 objets en comptant tout ce qui est jeux vidéo.
Ouais, et tu collectionnes les jeux donc consoles ?
Consoles de salon.
Consoles de salon, pas jeux PC, Mac,
alors,
tout ça.
Pas jeux PC, j'ai un peu de portable, voilà, c'est ce qu'on me donne, mais c'est pas ma collection principale.
Ah oui, ni les consoles portables, oui. Principalement, c'est les consoles de salon.
C'est ça, consoles de salon.
72 machines, tu as dit ?
Ouais.
Alors, tu sais que moi, du coup, fatalement, moi aussi, tu dois être sacrément bien équipé, parce que ça fait beaucoup, 72 machines.
Ça commence à faire un petit peu, ouais. C'est surtout en termes de place, là, que ça commence à être serré, là. C'est
une petite salle. J'imagine parfaitement.
C'est pour ça, là, depuis un an ou deux, j'ai un peu ralenti, question de place, hein, tout simplement.
Et ouais. Et ouais, c'est démentiel. Mmh. Ouais.
Avant, je récupérais pas mal de jeux aussi, les looses, surtout tout ce qui était looses, Nintendo NES, etc.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, un jeu en loose, c'est un jeu qui n'a plus son emballage, qui n'a plus sa boîte en fait. Voilà, c'est juste la cartouche ou juste le CD. C'est un jeu en loose, c'est ça.
Un jeu tout nu.
Voilà, un jeu tout nu, exactement. Contrairement à ce qu'on appelle les complete inbox, où là c'est un jeu complet avec sa notice et parfois même les documents de garantie et les publicités de l'époque qu'il pouvait y avoir dedans. Voilà.
Et c'est ça qui vaut le plus cher.
Et c'est
ça
c'est les plus rares, c'est vraiment les plus rares.
C'est les plus enquiquinants.
C'est ce qu'on se dit souvent, le carton ça vaut cher.
Ouais, clairement. Et maintenant on nous propose même de nous refabriquer les boîtes parce qu'il y a des vraies pénuries. Tu citais les jeux de la NES.
Ouais.
Moi aussi, tu sais que ma collection, parmi tous les jeux qu'on conserve avec le conservatoire, ma collection de cœur, c'est les jeux de la NES. Et j'essaye de faire le full set, c'est-à-dire tous les jeux qui sont sortis sur la NES en France. Pas dans le monde, juste en France. Et j'y suis presque, mais ça fait des années que j'y suis presque, il me manque 17 ou 18, je crois. Mais
ça fait un paquet déjà.
Ça représente juste ce qui manque. Je regardais dernièrement, ça faisait un an que j'avais pas mis le nez dans ce que ça valait et tout ça. Tous les prix ont doublé.
Ah bah.
Tous les prix ont doublé.
Et sur toutes les consoles. Hein.
C'est incroyable.
Ma console de cœur, c'est la Saturn. La Saturn, en 3 ans, elle a quadruplé. Là.
Ah ouais.
Il y a encore 4-5 ans, franchement, les jeux, on arrivait à trouver des jeux à 10 balles. Là, maintenant, c'est mort.
Ouais. Bah, ça m'étonne pas.
Ça a pris un tel essor.
La NES, c'est pareil. Il y avait encore des jeux entre 5 et 10 balles en loose il y a encore quelques années. Maintenant, c'est parfaitement fini.
C'est ça.
Donc, bon.
On est surtout en fait, dans un système où les gens, maintenant, ils voient un truc, ce type de jeu-là, et ont l'impression d'être tombés sur une pépite et vont vendre ça à des prix.
Tout le monde croit que tous les jeux ont de la valeur, tout
c'est ça,
ce qui est parfaitement faux. En vrai, quand on voit les cartouches de Super Mario, le tout premier sur la NES, qui se vendent parfois à prix d'or, il y en a même une, j'ai vu, qui s'est vendue aux enchères il n'y a pas longtemps parce qu'il n'était pas déballé.
Ah oui, c'est le
Soulister.
Oui. Ouais.
Alors, je peux comprendre, il n'est pas déballé,
mais
je crois que c'est parti à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Enfin, c'est ahurissant.
À ce prix-là, t'as vraiment intérêt de savoir que t'as vraiment le jeu avec la notice et tout ça d'origine, parce que.
Enfin, c'est le marché de l'occasion. Maintenant, c'est comme ça. Le jeu vidéo, c'est vrai que c'est devenu. Enfin, tout ce qu'on appelle rétro gaming, c'est devenu de la folie. Et alors, toi, Jérôme, à quoi tu joues ?
Eh ben moi, comme je l'ai dit juste avant, je suis plus passionné jeu de rôle.
D'accord.
Et actuellement, je suis sur une campagne en tant que joueur et aussi maître de jeu sur la saga Chronique Oubliée Contemporain.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça, Chronique Oubliée ?
Alors, Chronique Oubliée, c'est un système de jeu de rôle qui allie à la fois l'univers fantasy qu'on peut associer au Seigneur des Anneaux, par exemple. Mmh, mmh. Il y a aussi donc, l'univers contemporain, où là, on peut associer des mutants, des vampires, des démons, enfin ce genre de choses. Et là, récemment, ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, peut-être un ou deux ans, un univers qui s'appelle Galactique, où là, on est sur plus un univers space opéra.
D'accord. Eh bien, tu vois, je ne connaissais pas cette gamme-là, mais oui, ça a l'air très ouvert.
C'est très ouvert, disons que voilà, on a les plus connus qui sont comme Pathfinder ou Donjons et Dragons. Donc, à la base, Chronique oubliée, c'est vraiment un système où, plus simple. Qu'un Pathfinder ou...
Quand tu dis un système plus simple, tu parles du système de jeu, des règles ?
Du système de jeu, des règles. Pour avoir eu l'occasion de pratiquer un peu Pathfinder, je trouve que pour moi, à titre perso, Chronique oubliée part sur des bases un peu plus simples et un peu plus abordables rapport à d'autres jeux.
Bon, ce qui n'empêche pas pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, il faut essayer parce que ce n'est pas si compliqué. Là, on parle de système de jeu et tout ça, mais en vrai, un système de jeu de rôle, ça peut être aussi ultra simple.
C'est hyper varié, il en existe des tas.
Il en existe des tas et pour faire une partie, on n'a pas besoin en tant que joueur de lire des montagnes de règles.
Non, après...
Donc il faut toujours encourager les gens parce que c'est vrai qu'on voit que le public, souvent, il a peur d'essayer le jeu de rôle. C'est vrai qu'une partie, ça peut être un peu long, ça dure plusieurs heures quoi qu'il arrive. Ah, c'est rarement plus court. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur des règles pour un jeu de rôle. Je crois qu'on peut s'asseoir une de jeu de rôle sans connaître les règles du jeu, ça pose pas de soucis.
Je confirme, moi je suis pas du tout dans le milieu du jeu de rôle, j'ai fait quelques parties avec Jérôme.
Oui.
Bon allez, il y a 10 minutes de règles où on explique un peu les règles du jeu, puis on se lance dedans et on suit le maître du jeu.
Disons qu'il y a une part où le maître de jeu explique les bases, et ensuite ça se fait au fur et à mesure que la partie avance. Donc au départ c'est un peu plus long parce que le temps que les joueurs s'habitue au système, mais ça se fait quoi.
Ouais, ouais, complètement. Voilà, c'était notre petite parenthèse promo fête du jeu de rôle. Bon alors, vous êtes venus, messieurs, nous parler de votre association Ghostbuster Project 58. Alors, qu'est-ce que c'est cette association ? Qui veut commencer ? Anthony.
Eh bien, alors, tout simplement, déjà à la base, c'est juste un rassemblement de quatre potes, parce qu'à l'origine, on s'appelait Ghostbuster Team 58.
D'accord.
Quatre potes, où on s'est connus d'ailleurs à Jules Renard, à Nevers.
Donc juste à côté de nos studios.
Voilà. Et donc on se connaît du lycée, et puis un jour on a été à une convention assez connue, la Japan Expo.
D'accord.
Ouais, je vous avais fait découvrir la Japan Expo. Ouais.
Et on avait vu tous ces cosplayers, tous ces personnages avec des accessoires, des petites loupiottes, des lumières.
Tout ce monde du cosplay. Ouais.
C'est ça. Et nous, venant d'un BTS électrotechnique, on s'est dit, oh, c'est joli les petits trucs avec les petites lumières, faudrait qu'on fasse quelque chose.
À quatre.
Et on a cherché quoi faire, et puis quatre bonhommes avec des petits trucs qui brillent partout, on s'est dit, ouais, Ghostbusters, c'est bien, ils ont des trucs dans le dos là. Et du coup, on a créé notre groupe.
Ouais, c'est ça.
Et à la base, c'était pas du tout une association, c'est tout simplement un nom qu'on s'était donné comme ça. Et
oui, vous aviez pas de statut associatif ou du moins officiel.
À la base, c'est juste un groupe, comme l'a dit Anthony, c'était un groupe de copains, et en fait, c'était l'occasion pour nous de nous réunir et de taper la déconnade, tout simplement.
Et alors, c'était en quelle année ça ? Je veux pas vous vieillir, les gars. C'est-à-dire que ça fait déjà 20 ans.
Non, on n'a pas fait les packs il y a 20 ans.
Non, je parle de quand on s'est rencontrés.
Ah oui, quand on s'est rencontrés.
Le premier pack, il est de 2013.
Voilà, 2013.
Le tout premier qu'on a fait en pack, oui. Non, la rencontre, c'est 2003 et le pack, il est de 2013.
Ouais, c'est ça.
Alors, du coup, vous parlez pack. On va expliquer quand même à nos éditeurs.
Bien sûr.
Quand vous parlez pack de protons, on est d'accord ?
Exactement.
Alors, qu'est-ce que c'est un pack de protons ?
Alors, un pack de protons, en fait, c'est une grosse machine que le chasseur de fantômes porte sur son dos. Alors, chasseur de fantômes fictif, je précise, porte sur son dos, et en fait c'est une sorte de mini réacteur nucléaire, on va dire, pour faire simple, qui envoie une sorte de lasso,
une effluve.
Un lasso énergétique pour capturer et immobiliser un fantôme afin de le capturer dans ce qu'on appelle un piège à fantôme, alias
la ghost trap. La fameuse ghost trap.
J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle.
Quoi?
Ne jamais croiser les effluves.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et puis qu'on revienne un petit peu ensuite sur vos activités. Alors, vous nous avez amené un morceau issu de la BO de SOS Fantôme, de Ghostbuster, évidemment. Le premier que nous allons écouter, c'est un morceau de Jackie Wilson qui s'appelle Higher and Higher. C'est parti!
Your love lifted me higher than I've ever
Et voilà, c'était Ailleurs et Ailleurs, Jackie Wilson. Alors, c'est vrai que d'habitude, quand nos invités nous amènent des chansons comme ça, on leur demande « Mais pourquoi as-tu fait le choix de cette chanson ?» Bon, voilà, tous ceux qui ont déjà vu Ghostbusters ou qui aiment bien Ghostbusters savent que la chanson est dans le film.
Alors, tout à fait, ouais, c'est moi qui ai fait ce choix, parce qu'on le trouve dans le deuxième Ghostbusters, quasiment à la fin de ce film. C'est la scène où on voit justement les Ghostbusters qui se trouvent dans la tête de la Statue de la Liberté.
Ouais.
Et donc, ils mettent cette chanson-là. Et moi, je sais pas, moi, c'est une musique en fait qui me donne la pêche, quoi, tout simplement. Elle est hyper entraînante. Alors, certes, elle est pas d'hier, enfin, elle est pas d'aujourd'hui plutôt. Mais je trouve qu'elle donne la pêche, elle est entraînante, elle donne envie de danser. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi.
Continue à avancer, Liberté chérie. Si tu réussis, on t'emmène passer un week-end à Las Vegas avec le petit bain d'homme en gelée.
D'ailleurs, tu parles de la Statue de la Liberté.
Ouais.
Vu que tu collectionnes les jeux de NES.
Ouais.
Est-ce que tu sais comment les Ghostbusters pilotent la Statue de la Liberté?
Avec un NES Advantage.
Yeah, c'est ça.
Donc le NES Advantage, c'est une manette spéciale. C'était une espèce de paddle. Je sais même pas comment le dire. Donc on trouvait un joystick. Voilà, on trouvait un joystick dessus et des gros boutons. Et ça se branchait même sur les deux ports manettes de la console parce que ça réclamait les deux ports manettes. Donc on pouvait pas jouer sur la même console avec deux manettes comme ça. Mais oui. J'avais bien remarqué.
Et on revient toujours à la même chose.
Et alors, si je peux continuer les parenthèses et les anecdotes à ce sujet-là, l'un de mes tout premiers jeux vidéo sur la NES quand j'étais gamin, c'était Ghostbusters 2, justement, qui est vachement difficile et pas super agréable, mais...
c'est pas le meilleur.
T'as pas choisi la facilité.
Bah ouais, mais bon, tu vois bien quand t'as 10 ans.
Ah bah surtout à 10 ans, parce que celui-là, mais, ouais.
Je crois que tous les gens de ma génération...
T'as acheté par rapport à la jaquette, de toute façon.
T'as acheté la jaquette.
Bah à cette époque-là, t'avais pas le choix.
De toute façon, c'était soit des photos sur les magazines, soit la jaquette dans le magasin. Il n'y avait pas d'émission pour en parler, ou en tout cas pas plus que ça. Et au vu du nombre de titres qui sortaient à cette époque, c'était pas facile de pouvoir faire un choix. Alors, revenons à votre association. Alors, vous disiez, vous étiez un groupe de copains, donc j'imagine que vous étiez quand même fan de Ghostbusters pour décider à un moment où,
Pas plus que ça.
Honnêtement, à la base, pas plus que ça, parce que c'est vrai, comme a raconté tout à l'heure Anthony, on cherchait une idée, mais une idée de cosplay qui se fasse à quatre, quoi.
Et
à 4, quand on y réfléchit, il n'y a pas tant de choses que ça. Et c'est vrai que c'est Ghostbusters qui nous est venu à l'idée.
Ça permettait de faire l'équipe, ouais.
Et en fait, la passion, entre guillemets, est venue au fur et à mesure qu'on a avancé dans la fabrication des props, etc.
Ça, on l'a vu aussi par la suite, mais on s'est rendu compte que c'est intemporel, quoi. Le logo Ghostbusters, qu'on ait 7 ans ou 89 ans, tout le monde connaît le logo Ghostbusters.
Ouais, bien sûr.
Ouais, c'est vrai qu'on avait été surpris. Déjà, la toute première convention qu'on a faite, c'était au Japan Expo, parce qu'on voulait être prêt pour la prochaine Japan Expo en 2014. Et on a eu des déboires sur le costume, mais c'est vrai qu'on avait eu la surprise que je me rappelle, c'était un môme qui devait avoir 7 ans quoi, environ, et puis Ghostbusters, c'est trop bien, trop cool, machin chouette, et on était super surpris parce que à ce moment-là Ghostbusters c'était pas encore
pas Comme, il n'y avait pas de reboot. Il n'y avait pas eu de reboot encore.
Oui, c'est ça. C'est que vous avez eu de la chance, si je puis dire, là, entre guillemets, avec les films qui sont ressortis ces dernières années.
Ouais, mais quand on a commencé, le dernier film, c'était le 2, quoi.
C'est quoi, le 2 de 1986.
Ouais, il y a quand même eu un coup de couteau dans le dos avec la version de 2016, là, avec les nanas, non?
Non, il n'y a pas eu de film en 2016.
Il parle de quoi, là?
Multiverse.
Faudra pas le dire à Vlad.
Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ces reboots, là, les deux films qui sont sortis ces dernières années? Moi, je suis allé voir le deuxième au cinéma, là, cette année.
Moi, très agréablement surpris du premier.
Ouais.
Parce que tout le monde avait peur, tous les fans avaient peur.
Tu m'étonnes, ouais.
Et franchement, du fan service, et puis de toute façon, c'est ce qu'on demandait. Hein.
Oui, alors c'est vrai que pour relancer le truc, je trouve que le réalisateur a bien fait les choses parce que ça a été vraiment du fan service et pour pouvoir relancer une nouvelle histoire et avec de nouveaux acteurs, j'ai envie de dire. Donc,
complètement.
Avec ces acteurs un peu plus jeunes, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu surfer un peu sur la vague Stranger Things. C'est l'impression que ça m'a donné.
Ouais, mais moi aussi. Bon, et puis en plus, il y a un des comédiens qui est un des comédiens de Stranger Things. Pour ceux qui suivraient pas le film, dans Stranger Things, dans la deuxième saison, ils fêtent Halloween et tous les gamins de Stranger Things sont en costume de Ghostbusters, justement.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait.
Et puis il y a eu le deuxième film là, cette année. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai été un peu déçu en allant le voir.
Moi, je suis un peu plus sur ma faim sur le deuxième. Alors qu'il reste quand même très très bien. Il faut pas non plus cracher dessus.
Oui, on est d'accord.
Je pense qu'il est rempli de très bonnes idées, mais qui sont pas du tout abouties, quoi.
Mmh. Ouais.
Ça aurait pu aller chercher beaucoup plus loin. Comme les nouveaux packs, Proton Pack arrive
À la fin.
De Wilson qui arrive tout à la fin avec les bandes jaunes et tout. On se dit waouh. Puis non, en fait, au final, ils sont pas utilisés, quoi.
Bah, en fait, on ne sait pas ce qu'ils apportent de plus. C'est vrai, comme dit Anthony, il y a eu plein de bonnes idées. Ils ont voulu mettre en place de nouvelles choses, mais l'exécution a été, pour moi, très mauvaise.
D'accord.
Mais c'est vrai, le coup du Proton Pack, ok, il y a un nouveau Proton Pack qui arrive avec un nouveau méchant. Donc, ça veut dire qu'on se dit raisonnablement que ce Proton Pack a quelque chose en plus. Et en fait, pas du tout.
Et en fait, pas, pas
pareil, toute l'idée du labo géré par Winston, c'est une super idée, mais pareil, c'est pas plus mis en... enfin, ça sert pas plus que ça, quoi.
Ouais, ouais.
Alors c'est une très très bonne idée sur la base.
Et puis,
on ne capture plus, mais on essaie de les comprendre. C'était un super truc, c'était un super virage à prendre, mais je trouve que c'est pas plus exploité que ça, quoi.
Ouais.
Tout comme cette confrontation finale qui, pour moi, m'a laissé sur ma faim. Honnêtement,
je m'en souviens même pas, tu vois.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'en fait, dans le film, quand on voit la bande-annonce, on attend un truc cataclysmique dans les rues de New York. Et en fait, tout se passe dans la caserne. Ouais. Quoi. Donc, j'étais un peu resté sur ma faim là-dessus parce qu'il manquait quand même un peu de spectacle.
Bon, alors pour revenir à votre association, donc, vous êtes sur deux aspects. D'un côté, le cosplay avec la partie costume, ouais. Et de l'autre, celle avec, comment tu as dit tout à l'heure, les props.
Les props.
Donc les accessoires, les goodies, voilà. que vous fabriquez.
Alors,
autant que possible, en tout cas.
90% de ce qu'on a est fait maison, ouais.
D'accord. Alors, vous savez, notre émission de radio sera diffusée aussi sur YouTube et il y a une version image. Je vous demanderai des photos de certaines de vos réalisations parce que moi, j'ai eu la chance de déjà les voir sur des conventions, des salons qu'on a fait ensemble. Et c'est ce que vous faites, je suis pas là pour ne faire que vous complimenter, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien.
On a une petite particularité parce qu'il y a deux associations Ghostbusters d'un point de vue national. Il y a la nôtre et puis Ghostbusters France qui est un peu plus déployée sur le territoire. Ils sont plus nombreux. Mais nous, la particularité que l'on a, c'est qu'en fait, on n'a pas peur de mélanger les genres.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple,
j'ai fait un crâne de Predator, par exemple, que j'ai mis sur un espèce de socle, comme si ça t'avait une capture Ghostbusters.
Ouais, d'accord.
Tout comme il a adapté, on va venir dans l'univers du jeu vidéo, le gun du jeu vidéo Portal.
Ah oui, ok. Le Portal Gun.
Donc voilà, il s'en est fabriqué un aussi. Et qu'il a tout customisé à l'effigie de Ghostbusters. Quoi.
Ah, ok.
Donc on n'a pas peur du mélange des genres, au contraire, c'est même hyper enrichissant et ça permet de la création de nouvelles choses.
Puis aussi, on va quand même les mentionner, quand même la maison mère. On a réussi à se jumeler avec une association, par contre, Ghostbusters Project, qui eux sont basés principalement en région parisienne.
D'accord.
Et qui sont de gros passionnés.
Et des très gros passionnés, on a appris beaucoup avec eux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a accepté la fusion. Et on a gardé le petit terme 58 quand même pour garder notre.
Vous avez fait ça quand cette fusion avec eux ?
Oh, c'est tout récent. C'est pas début d'année ? La fusion officielle.
Oui, c'est tout frais.
Après, parce que
oui,
on se connaît depuis 4-5 ans.
On se connaît depuis 4-5 ans, mais on se réunissait, etc. Mais la fusion officielle, où là maintenant on a vraiment un statut associatif, c'est depuis début d'année.
Ah oui, c'est début d'année.
Ça. Alors c'est en intégrant ou en fusionnant avec ce groupe français, j'ai envie de dire.
Ils étaient déjà à la base.
Que vous êtes devenu une association.
C'est ça.
Ils étaient déjà à la base une association, eux de leur côté. Et en fait, nous, on a juste rejoint leur rang. Quoi. Et c'est vrai que, comme dit Anthony, on a voulu garder le petit terme 58, donc pour...
Oui, d'une certaine manière, vous êtes devenu la division 58 d'une association nationale.
On a voulu garder notre terroir nivernais.
Alors, moi, je suis votre actualité depuis quelques années, donc j'ai vu que, j'imagine que ça vient aussi du fait de cette fusion, vous avez été très, très présent, y compris à la sortie du dernier film.
Oui, au Grand Rex.
Vous avez été très présent sur des conventions. Alors, parlez-moi un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour la sortie du film ?
Alors, pour la sortie du film, on avait été contacté donc, par le Grand Rex et Sony.
C'est ça.
Donc, quand ils disent le Grand Rex, ils parlent bien du cinéma parisien. Hein.
C'est ça, oui, le cinéma parisien.
C'était même la sortie européenne.
Ouais.
C'était la sortie européenne, ouais. Et donc, oui, c'est la maison mère Ghostbusters Project qui avait été contactée. Puis maintenant qu'on est avec eux, c'est pour ça qu'on a pu tous se déplacer à Paris.
Ce qui a fait surtout le gros plus qu'on ait été contacté, c'est que parmi les membres de notre groupe, on en a deux qui ont les voitures du film.
Alors oui, ça c'est aussi... quand ils disent ils ont les voitures du film, ils ne parlent pas de miniatures.
Non, il est vrai.
Je m'adresse aux auditeurs parce que pour vous c'est une évidence, mais pas pour eux.
Oui, non, mais c'est vrai que...
Donc vous avez deux fois la voiture Ecto 1.
Alors non, pas l'Ecto 1. On a l'Ecto 1, effectivement, enfin en tout cas une version de l'Ecto 1, mais on a aussi, par notre ami Vlad, de Ecto 1 France, l'Ecto de film du 2016, donc celui avec les filles.
D'accord.
N'existe pas.
Très bien. Qu'est-ce que c'est comme voiture d'ailleurs avec toi hein ?
C'est une Cadillac Ambulance Météor et je crois qu'elle est de 59.
Ah, ça, je sais plus ça.
C'est pas un corbillard.
Non, c'est une ambulance.
C'est une ambulance.
Alors, le modèle qu'a Eric, c'est le modèle corbillard, où les portes s'ouvrent
en papillon.
D'accord.
Mais ça correspond du coup au dernier de Afterlife.
Ouais.
Parce que dans Afterlife, quand il y a le siège d'artilleur qui sort de la voiture, la porte s'ouvre en arrière.
Tout à fait.
Et normalement, quand... l'Ecto, la porte s'ouvre vers l'avant.
Et quand on parle du Afterlife, c'est les derniers films sortis.
Oui, c'est le sous-titre du tout dernier Ghostbuster qui est sorti cette année. Ouais.
De l'avant-dernier.
L'avant-dernier.
Ah, pardon.
Le dernier, c'est La Menace de Glace.
Frozen
Empire.
Et du coup, voilà, c'est le petit truc marrant parce que lui, il avait la version qui s'ouvrait comme ça. Et en fait, avec le dernier film, et bah, du coup, bah,
elle est venue avec Wright, comme
on dit. Il a la bonne.
Voilà.
Bonne pioche.
Voilà, là, c'est ça. Et donc, ouais, c'était surtout pour ça qu'on avait été contacté quand même à la base, faut le reconnaître. Et du coup, on a été amené à faire une petite animation sur le devant, où il y avait donc la présence de certains cosplayers Ghostbusters, y compris nous,
oui.
Aussi Ghostbusters France, et aussi diverses présentations, animations dans différents endroits du Grand
cinéma,
Rex,
ouais.
Du cinéma, quoi.
Super. Alors quand vous faites une intervention, une prestation, je ne sais pas comment dire, vous venez donc en costume avec votre matériel, c'est pas... Moi je vous ai vu sur des événements locaux, certes formidables à la manière de la fête du jeu, mais où vous veniez avec un stand et vous présentiez vos créations avec quelqu'un qui était, ou plusieurs personnes en cosplay, mais sinon vous faites des interventions sous forme de déambulation en costume, de...
À la demande. On avait fait l'Eden aussi à la sortie
du Afterlife.
C'était Afterlife. On avait fait l'Eden à Cône.
D'accord.
Ils nous avaient demandé, donc on y avait été.
Le cinéma l'Eden, je précise.
Et généralement, c'est surtout à la demande.
Très bien.
Ouais, après, voilà, c'est. En fait, on a entre guillemets carte blanche, j'ai envie de dire. Parce qu'on est là pour mettre l'ambiance, tout simplement. Donc, certes, on a un stand de présentation où on partage volontiers notre expérience, notre passion Ghostbusters, aussi sur la fabrication des props. Après, oui, ça, on déambule à travers donc, les couloirs ou quoi que ce soit, pour se faire voir, pour rire, enfin pour déconner, parce que moi, enfin Anthony, je sais pas, mais moi, quand j'ai le costume Ghostbusters, clairement, je suis dans un personnage.
Bien sûr.
Donc, je suis là vraiment pour mettre l'ambiance et je me lâche, quoi. Je fais des choses que je me permettrais moins en civil, on va dire.
Bon, puis, de toute façon, le but, ça reste comme à tous nos débuts. De toute façon, c'est juste rigoler entre potes.
Ouais.
Nous, on se fait pas payer.
On
se déplace juste pour rigoler, mettre de la musique et puis voilà, quoi.
Et alors, question un peu bête, mais vous avez déjà participé à des concours de cosplay? Puisque, alors nous on a monté à une époque avec le Conservatoire du Jour, on faisait des gros événements à la manière des geekeries au Centre Expo, et du coup on avait été approché par une grosse association de cosplay de Clermont qui nous avait proposé d'organiser un concours de cosplay.
Ouais.
Et donc moi je connais pas très bien le monde des cosplayers, mais en les rencontrant, en tout cas cette division là, on avait l'impression que la partie concours était quelque chose qui avait de l'importance pour leur passion.
Nous pas du tout.
Ça n'a pas vraiment une importance, parce que c'est vrai que pour nous c'est de la rigolade. Par deux ou trois fois, effectivement, on a eu l'occasion de pouvoir se présenter à un concours, mais un petit concours interne. Et la plupart du temps, en face, il y avait des enfants, quoi.
Oui, d'accord.
Donc, nous, on voyait pas l'intérêt de se présenter face à des enfants, gagner un cadeau, un petit cadeau que ce soit. Autant laisser les enfants se faire plaisir et s'amuser.
À chaque
fois,
à la base, on était là-bas en tant qu'exposant.
Ouais.
C'était pas du tout le but d'y aller pour se présenter.
Donc alors vous avez cité plusieurs conventions que vous avez faites ces dernières années. J'imagine que vous avez des projets pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des conventions où on va pouvoir vous voir dans les prochains mois?
Alors la prochaine, ça doit être Reims.
Oui, c'est Reims.
C'est le Frisson Festival de deuxième saison.
D'accord.
À Reims, à l'Hippodrome de Reims, et c'est le dernier week-end d'octobre. Ça doit être le 27-28, je crois.
Qu'est-ce que c'est Frisson Festival?
Alors à l'origine, c'est pas une convention qui est faite pour nous à l'origine, mais en fait on s'y est très bien intégré. À la base, c'est un rassemblement d'écrivains sur des romans horrifiques.
Ouais. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais.
D'accord. C'est ça. Auteurs, écrivains. Là-bas, ça c'est vraiment sur du littéraire et sur du roman. Et le hasard a voulu qu'on soit, contacté. C'est via Monstre de Film. Qui lui avait été contacté par le Frisson Festival.
Alors, monstre de film, qu'est-ce que c'est?
Un youtubeur.
C'est un youtubeur, monstre de film, qui a une bonne petite chaîne hein, de quelques centaines de milliers, je crois, ou peut-être un peu plus. Bref, peu importe. Et en fait, c'est un youtubeur qui s'est spécialisé dans les films d'horreur.
Ouais.
Donc, que ça soit des grands classiques, des succès ou des nanars. Et il le fait très très bien. Moi, c'est vrai que je ne connaissais pas plus que ça avant. C'est Anthony qui me l'a fait découvrir, je dois avouer. Et il a une manière, on va dire, assez rigolote de présenter les choses. Et il a l'avantage de bien creuser son sujet et de bien présenter les choses.
Mais je vais vous dire la vérité, je regarde pas mal de youtubeurs, je le connaissais pas celui-là. Alors comme vous m'en avez parlé quand on a préparé l'émission, depuis je suis allé voir.
Il y en a tellement.
Et alors ?
Et alors, j'en ai pris une au hasard. Hein, donc je suis allé voir celle sur Meg. Donc sur avec Statham. Ouais, c'est très bien, c'est marrant et tout.
Bah, de toute façon, de lui-même, hein, je crois qu'il avait avoué qu'il s'était un peu inspiré dans sa manière de faire du JDG.
Ouais, c'est beaucoup le JDG, ouais, il le dit lui.
Alors le joueur du grenier, pour info.
Ouais, mais je crois que comme c'est parmi les premiers gros youtubeurs de ce format-là, le JDG...
Ah bah, le JDG, il fait partie des dinosaures.
Je crois qu'il a fait quand même beaucoup de petits... Même nous, au conservatoire, à une époque, on faisait archéoludique, notre inspiration première, c'était le JDG aussi.
Il a inspiré pas mal de youtubeur dans ce domaine-là, en tout cas.
Et je dis, par rapport aux critiques de films, là, par rapport à Monstre de films, moi, je sais qu'on aimait beaucoup Karim Debbache avec, au début, Crost et ensuite Chroma. Chroma qui a été vraiment une série d'émissions qu'il a fait. Alors, il n'en a fait que 12, parce qu'il les avait fait grâce à un financement participatif, mais c'était vraiment pointu et ultra qualitatif. Et je trouve qu'il y en a qui sont vraiment... qu'on découlait de ce sillage-là, de ce que faisait Debbache et son équipe à l'époque, sous ces noms-là. Je pense y a un gars qui s'appelle Guillaume Cassard, avec une chaîne YouTube qui s'appelle
Sinistretron,
qui parle souvent de nanar. Il a une façon de voir les choses avec un peu d'humour. C'est vraiment très bien et ça apporte des vraies informations intéressantes sur le film, que ce soit sur sa réalisation, sa production, sa création, pas juste sur son scénario, puisque de toute façon on va parler d'un nanar, donc le scénario, il y a de fortes chances pour qu'il soit très mauvais.
Oui, et puis ça sert à rien de paraphraser un film, quoi, sur le coup. Donc, si c'est juste pour faire un résumé, c'est pas intéressant.
Donc, autant certains critiques ça peut être utile, ou parfois sur les films un peu compliqués, de se dire mais attends, vous avez peut-être loupé ça, fallait comprendre
mais c'est
ça.
C'est bien de faire un petit résumé, mais ensuite d'y apporter ça touche.
Mais c'est vrai que toutes ces émissions qui vont parler et des techniques de cinéma utilisées dans le film et des systèmes de production et de comment ça marche à Hollywood, c'est-à-dire un film il coûte tant mais on considère qu'il n'a pas marché ou bien marché en très très peu de temps.
Le fameux box-office.
Le fameux premier week-end d'exploitation. Ouais. Il y a un film cette année d'ailleurs, j'en parle parce qu'il est sur le thème des jeux vidéo, c'est Borderlands qui est sorti cet été, qui s'est complètement planté, puisque en un week-end ils ont décrété qu'il ne serait pas rentable, donc j'imagine qu'il n'a pas fait beaucoup d'entrées. Et en moins de 3 semaines, il s'est retrouvé sur des sites de VOD. Donc il est sorti début août. Avant le 1er septembre, il était déjà disponible sur la VOD.
Je confirme, c'est comme ça que je l'ai vu, moi.
Donc ça, c'est des films qui se sont crashés le premier week-end d'exploitation et qui ont coûté cher, parce que maintenant, un film, c'est des centaines de millions de dollars. Donc,
Borderlands, c'est un univers particulier, quoi.
J'ai pas fait les jeux vidéo, donc je suis pas allé le voir, du coup. Mais
j'en ai fait un.
Ils sont sur ma wishlist de jeux à faire, mais bon, il y a un moment.
J'en ai fait un, et ouais, c'est particulier. L'adapter au cinéma, c'est pas si évident que ça.
Bon, puis je crois que ça porte bien son nom.
Voilà. Oui.
Alors revenons à nos moutons. À part le Frisson Festival dans les prochains mois, vous m'aviez dit que vous étiez aussi attendu à la Camocom.
Oui, à Dijon. Ah,
Camoplay.
Camoplay,
ouais, c'est le dernier week-end.
C'est la première fois qu'on va y aller d'ailleurs.
Ouais, c'est le dernier week-end de novembre, le 30 novembre, je crois.
Bah nous, on l'a fait la Camocom. On a fait la.
Ouais, il y a la Camocom.
Voilà,
il y a la
Camocom. À l'époque, il n'y avait que la Camocom.
La Camocom et maintenant le Camoplay. Alors, je ne sais pas si le Camoplay, ça existe depuis longtemps ou pas.
Bah, c'est le 30 et 1er décembre. Enfin, 30 novembre et 1er décembre.
Voilà. Alors, pour tous les auditeurs qui écoutent, c'est la convention. C'est une grosse convention sur Dijon. Ouais. Ils sont très bien référencés sur Internet, sur Facebook et tout ça. Vous pouvez aller consulter leur site pour voir ce qu'ils annoncent. En général, c'est très bien. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre la Camocom et la Camoplay, mais j'ai une petite idée quand même. Camocom c'était très bien, il n'y a pas de raison que Camoplay ça ne le soit pas.
Et puis il y a une particularité sur la Camoplay de cette année, c'est qu'en fait cette année, par rapport à la franchise Ghostbusters, c'est les 40 ans.
Et
donc
oui,
ça fait 40 ans que la franchise Ghostbusters
existe. Les 40 ans de sortie en France.
Sortie en France,
parce
bien sûr.
Aux États-Unis il était sorti au mois de mai, je crois. Et en France ça a été décalé, il était sorti pour Noël.
D'accord.
Donc c'est pour ça que pour nous, les 40 ans sera au mois de décembre.
Voilà.
Très bien.
Et pour l'occasion, il y aura un gros stand Ghostbusters avec toutes les associations et qui sont invitées, quoi, pour vraiment faire la grosse chouille.
Et les voitures, bien sûr.
Évidemment.
Je vous propose, messieurs, qu'on fasse une deuxième coupure musicale. Vous nous avez apporté un morceau qui a été fait pour vous par quelqu'un de votre entourage. Donc, le morceau s'intitule Ghostbusters et il est fait par...
Dom.
Par Dom. Allez, c'est parti. Et voilà, c'était le morceau Ghostbuster fait par Dom.
Tout à fait. Il l'avait fait pour nous à l'époque, on faisait des petites vidéos qu'on mettait sur YouTube. Mais bon, ça, c'était il y a quelques années.
Bah, c'était il y a au moins 5 ans.
Très bien. Si nos auditeurs souhaitent avoir plus d'infos sur votre activité, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter ou savoir ce que vous faites
Alors là où on a le plus d'activité, on va dire, c'est sur Instagram. D'accord. C'est le compte qui est le plus actif, hein, Ghostbuster Project 58.
Très bien.
Ou sinon, tout simplement, la page Facebook.
Et la page Facebook.
On est plusieurs à pouvoir se connecter dessus avec le même nom.
Très bien.
Donc, c'est plus facile sur Facebook de pouvoir nous laisser un message sur Instagram, en tout cas.
Très bien. Eh bien, merci, messieurs. Je reviens à vous en toute fin d'émission. Alors, mes chers auditeurs, c'est le moment de sortir vos agendas, vos stylos pour le programme des actions sur les semaines à venir. Alors, vous pourrez nous retrouver avec le Conservatoire du Jeu dès le samedi 28 septembre. Nous serons au festival Légende de Nevers qui se tient pour la toute première fois, c'est sa toute première édition. C'est donc le 28 septembre de 14h à 19h et nous serons là pour vous proposer une exposition sur les jeux des mondes de l'imaginaire. Ça se déroulera à la Porte du Crou. On vous attend nombreux pour papoter jeux et pour papoter vieux jeux. Et puis pour nous, c'est l'occasion aussi de déballer quelques vieilles boîtes de jeux de rôle, entre autres. Vous pourrez nous retrouver également ensuite le vendredi 4 octobre à notre local, au pot commun, le Poco. De 20h à 22h, on vous accueille dans la partie bar du Poco. Puis ensuite, on monte au premier étage dans notre local pour pouvoir jouer donc, au programme jeux de plateau et les nouveautés qu'on a glanées tout l'été, qu'on a intégrées à notre mal à jeu. Et puis, on vous en parle dès maintenant, même si ce n'est pas tout de suite. Notre prochain gros événement de la fin d'année sera le samedi 16 novembre. C'est le retour de la Nuit du Jeu et c'est déjà la 8e édition. Alors, comme chaque année, nous serons à la Grande Salle des Éduins de Nevers, avec une ouverture au public dès 17h et avec plein de surprises pour le moment au programme. On vous en dévoile un petit peu plus dans notre émission du mois prochain et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Vous le savez, notre programme ne cesse de s'enrichir chaque semaine et au moment où on enregistre l'émission, on n'est pas toujours en mesure de tout annoncer, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi sur la page programme de notre site internet, leconservatoiredujeu.fr. Notre émission touche à sa fin. Jérôme, Anthony, un mot pour la fin ?
Are you gonna call ?
Merci. Merci Anthony, merci Jérôme. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Qui c'est qu'on appelle ?
Ah, très bien. Merci messieurs d'avoir été mes invités pour cette 59e émission de À quoi qu'on joue. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM, bien sûr, sur bacfm.fr, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Alors, je vous dis au mois prochain et en attendant, soyez ludiques !